102.1.
Ah, Québec, c'est 17 degrés actuellement. Est-ce que ça va se réchauffer pour ce qui est des prochaines heures selon Environnement Canada? Ça pourrait aller jusqu'à 21 degrés pour aujourd'hui. Un minimum de 10 pour ce qui est de ce soir. Ce soir, est-ce que tu verras les étoiles? Pascal, as-tu une date ce soir?
Non, je suis une petite famille.
Si tu as une date, regarder les étoiles ce soir, ce sera pas valable puisqu'il y aura quelques nuages. Enfin, ça va être un petit peu plus difficile de regarder les étoiles filantes. Tenter de faire réaliser tes vœux avec l'être qui fait palpiter ton cœur.
OK. Non, j'ai un petit peu de famille. Tiens, ça t'écoute tout ça.
Il y en a qui ont des plus belles soirées que toi. Demain mardi, ce sera nuageux avec un maximum de 19. Mercredi, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 21. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 25. Et vendredi, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 24 degrés. Si tout va bien, pas de pluie pour cette semaine, c'est la bonne nouvelle pour nous. Je ne sais pas pour les agriculteurs parce qu'ils ont manqué de pluie, pas pire, des dernières semaines. Espérons que ça va bien aller pour eux autres.
Ils ont eu une méchante pluie, par exemple, hier matin, donc ouais. Ça a dû aider.
Mais quand c'est des pluies qui, je ne sais pas si ça a été le cas là, mais quand c'est des pluies qui scrapent le champ, c'est pas mieux non plus quand ça inonde, mais voilà. Donc, pas de pluie pour cette semaine. Puis, on parlera avec David Simard, la ferme Simard, peut-être dans les prochains jours pour savoir comment ça se passe la saison des récoltes. Pour l'instant, on parle avec notre ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut!
Salut à vous!
Ça va très bien, j'imagine, pour ce qui est des contribuables, quand on regarde toutes les nouvelles dans l'actualité, juste la commission Galant qui reprend ses travaux, Geneviève Guilbeault qui a été convoquée, tous les anciens ministres des Transports aussi qui ont été convoqués, et Pascal nous a appris dans les dernières minutes que les gens qui s'occupaient du fameux dossier Saclic, il y a eu des flags qui ont été levés, Nicolas, en 2017, par une lanceuse d'alerte, on se retrouve en 2025, on est en commission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai bien hâte de voir ce que les ministres qui ont été, je pense à Laurent Lessard, là, eux autres, ils ont été dans le coup comme quoi ça allait pas bien, puis il y avait des histoires un peu louches qui se passaient avec cette application-là. J'ai bien hâte de le voir, moi, cette semaine, comparaître devant les commissions Galant.
Ben moi aussi, j'ai hâte de voir comparaître. En fait, j'ai hâte de voir tout ce monde-là comparaître, puis pas juste Geneviève Guilbeault cette semaine, mais on pense aussi à François Bonnardel qui devrait également là passer à la commission bientôt. Là. C'était quand même son prédécesseur qui a géré une bonne partie du dossier. Ben oui, la nouvelle qui est sortie tantôt, il y a à peu près une demi-heure de tout ça, c'est Radio-Canada qui a rapporté le fait qu'en 2017, une certaine ancienne directrice là, de la planification et de la performance, je pense que son nom c'est Pascal Saint-Hilaire, selon le l'article que j'ai lu en diagonale rapidement. Non, elle avait savoir sauter en onde, mais grosso modo, elle aurait été carrément même escortée en dehors des bureaux de la SAQ. Et pourquoi? Ben, elle avait amené beaucoup de doutes et de pression, en fait, par rapport aux manières de faire de Carl Malenfant, qui est impliqué, là, depuis, comme on le sait, dans le projet Saclic CASA depuis aussi longtemps qu'il a été mis en place. Bref, ça, comme quoi est-ce que ça fait déjà 8 ans qu'on a des drapeaux rouges dans toutes les directions qui flottent, mais il n'y a pas grand monde qui y prête attention jusqu'à ce qu'éventuellement on apprenne les dépassements de coûts, on apprenne le départ d'Éric Kerr, puis finalement le début de la commission Galant. Une chose que j'avais dit il n'y a pas longtemps par rapport à cette commission-là, c'est que je disais il y a très peu de chances que les gens prennent au sérieux cette commission-là si, de un, on n'arrive pas à des conclusions qui vont amener vraiment des répercussions pour le reste des autres projets informatiques, c'est-à-dire qu'on change la gouvernance, qu'on soit plus transparent, puis qu'il y ait beaucoup plus d'élaboration qui soit faite avant que le déploiement de la plateforme soit fait, mais aussi cette commission-là sera pas prise au sérieux si on n'a pas les ministres carrément qui vont y être passés au peigne fin, donc Geneviève Guilbeault, François Bonnardel, mais on espère aussi voir Éric Kerr, et comme je l'ai mentionné au départ aussi, Laurent Lessard et Pierre Moreau, bref, tous les ministres, tant libéraux que caquistes qui ont eu les mains sur ces projets-là doivent au minimum nous éclairer sur les détails des événements qui ont mené à ce fiasco.
Et c'est particulier parce que la rentrée parlementaire va se faire dans les prochaines semaines, puis les libéraux pourront pas nécessairement critiquer la CAQ sur le dossier parce qu'ils sont impliqués, parce qu'il y avait eu une lanceuse d'alerte. Moi, j'en parlais tantôt avec Pascal, là, je vais être satisfait, là tu comprends mon insatisfaction légendaire là, avec ce que je vais te dire, mais je vais être satisfait à partir du moment où toute l'information qu'on aura dans cette commission Galant-là va servir à des enquêteurs pour mener des arrestations puis porter des accusations avec le DPCP sur des individus. Et quand je vais les voir chaînettes aux pieds, menottes au poing pour avoir mal géré notre argent et l'avoir volé, ben là, je vais être satisfait de la commission Galant.
Écoute, je partage un peu, ton niveau de désillusion par rapport aux institutions, comme on peut le voir en ce moment, parce que, tu sais, non seulement on a ces nouvelles-là qui sortent ce matin, mais en plus, on a appris là, que, tu sais, Christophe Dubé réclame plus d'argent pour d'autres projets informatiques qui sont sur le point de déraper. Fait qu'on a l'impression que non seulement ça clique, c'est un cauchemar qui veut pas arrêter, qui veut jamais terminer, mais d'un autre côté, on voit d'autres possibles saclés qui sont en train de monter leur bout du nez. Fait que, effectivement, on aimerait ça qu'il y ait des conséquences. On espère, avec raison, qu'il y aura peut-être même certains fonctionnaires qui vont se faire réellement peut-être là emmener en cour ou emmener en justice, parce que il y a vraiment eu des gens qui ont caché de l'information au ministère, qui ont caché de l'information aux contribuables, qui ont contourné des procédures pour cacher des dépassements de coûts. Je veux dire, à la fin, il est supposé avoir des conséquences pour ces personnes-là. C'est pas supposé être simplement une conséquence politique ou une tape sur les doigts comme ouais. « Ah, OK, t'es plus ministre, t'es rendu adjoint au ministre à la place. » Il est supposé avoir des conséquences un peu plus grave que ça. Bref, on va voir comment est-ce que les choses se déroulent. La commission Galant est supposée prendre fin le 6 septembre, mais j'ai comme l'impression que le vérificateur général du Québec va devoir fouiller encore plus sur d'autres projets informatiques, parce que, comme je vous dis, j'ai pas l'impression que ça clique. Là, c'est vraiment le... En fait, j'ai comme l'impression, en fait, c'est plutôt le genre de pointe de l'iceberg. En fait, c'est pas encore la fin de l'histoire.
Nicolas, j'ai avoir deux questions dans ce dossier-là. La première, c'est comment est-ce qu'on explique qu'Éric Kerr n'a pas été encore convoqué?
C'est une bonne question, parce qu'il aurait dû être le premier convoqué. En fait, je l'aurais convoqué dès le début de la commission elle-même. Là.
Fait qu'on le sait pas. Parfait. Ma deuxième, c'est est-ce que tu penses que l'accusation là, de dépassement de coûts qu'on voit dans les médias aujourd'hui suite aux demandes d'accès à l'information de Radio-Canada dans les processus et les projets en santé, parallèlement à celle de la SAAQ, CLIC, donc plutôt en transport, c'est finalement la même façon de procéder qui avait été mise en place à peu près au même moment, qui déboule dans ce genre d'ingérence-là, qu'on n'est pas capable de faire des projets technologiques qui rentrent dans les coûts, on n'a pas les bonnes personnes là-dessus, et qu'à la toute fin de ça, on va avoir appris puis ça va changer, ou tu penses que c'était vraiment un autre projet, un nouveau projet et que ça va continuer? Est-ce que tu comprends la différence que je fais entre les deux?
Oui, ben en fait, l'affaire, c'est que on dirait qu'entre SACLIC ou les autres projets informatiques en santé comme CIFAR, par exemple, le fameux système de gestion puis de ressources humaines, on dirait que le seul fil communiquant entre les différents projets informatiques de ce type-là, c'est le ministère de la cybersécurité et du numérique. Puis ce fameux ministère-là, honnêtement, en tout respect, je ne comprends pas en fait son utilité jusqu'à maintenant. On n'a pas l'impression qu'il y a un réel contrôle qui a été effectué sur les différents projets informatiques. En fait, même que plus pire que ça. Éric Kerr lui-même, l'année dernière, il disait à Christian Dubé, écoute, le projet CIFAR qui est en train de pousser avec le reste du système de santé québécois, il y a des bonnes chances qu'il y ait des dépassements de coûts astronomiques. Puis on s'entend, Éric Kerr, déjà, il sentait un peu la soupe chaude par rapport à toute la saga de sa clique. Fait que lui, il voulait pas en vivre une deuxième, j'imagine. Donc, il était assez clairvoyant pour avertir sur le ministre Christian Dubé. Et c'est passé dans l'oreille d'un sourd, littéralement. Donc, au final, il y a même pas eu de réveil par rapport à ça. Puis même là, c'est rendu que c'est le successeur d'Éric Kerr, Gilles Bélanger, qui dit qu'il aurait fallu tirer la plug sur ce projet informatique-là. Et là, ben, au lieu de tirer la plug, t'as littéralement Christian Dubé en ce moment qui demande 200 millions de dollars pour contrepousser ces projets-là.
Il est peut-être rendu trop loin dans ce genre de mal gestion-là des projets technologiques, puis qui se dit, bon, ça va être le dernier, on va avoir d'énormes dépassements de coûts, pas que ça soit acceptable, pas du tout, mais qu'après, on va apprendre de nos erreurs, on va revamper ce ministère-là si jamais on le conserve, mais ça va changer. T'as-tu l'impression que c'est ça? Parce que justement, ça semble être l'épicentre, là. Le ministère de la cybersécurité semble être l'épicentre des problématiques dans l'implantation technologique ailleurs dans nos ministères.
Ben oui, puis en plus, ça aurait dû être le contraire, ça aurait dû être la base de solution pour l'intégration de toute cette transition-là. Ben moi, tout ce que je veux dire, c'est citer carrément François Legault quand il était à l'opposition, où est-ce qu'il disait carrément que, en fait, là, les projets informatiques, ça serait l'équivalent éventuellement de ce qu'on voyait avec la corruption dans la construction. En fait, il avait fait un comparatif un peu boiteux à l'époque, on se demandait qu'est-ce qu'il voulait dire en faisant référence au fameux bar ouvert pour les projets informatiques au Québec. Et puis finalement, bon, on réalise qu'il y avait quand même 100% raison autres, finalement, du moins quand il était pas mal plus clairvoyant quand il était à l'opposition. Et même que son propre ancien ministre, Éric Kerr, lui-même, quand il était à l'opposition en 2015, il demandait une commission publique sur les projets informatiques avant qu'ils soient déployés pour justement éviter la situation dans laquelle on est pris présentement. Mais là, il faut quand même un minimum de volonté politique parce que d'une part, il faut mettre sur pause ces projets-là. Je comprends qu'on a hâte de se débarrasser des sacs dans le système de santé québécois, mais il y a quand même aussi un minimum là, de recul qu'on doit prendre pour éviter justement de se rendre dans un autre fiasco parce qu'on a vu ça à plusieurs échelles puis dans plusieurs paliers gouvernementaux. On a vu bien sûr ça clique, mais on a vu aussi qu'est-ce que pouvait donner des projets comme Phoenix au fédéral. Et puis l'affaire, c'est que le projet CIFAR qui va quand même coûter jusqu'à maintenant plus d'un demi-milliard et on n'est même pas sûr là, de combien ça va coûter au final, mais il en reste que ce projet-là, ça s'applique à l'ensemble du système de santé et ça va gérer aussi les payes et les horaires des employés. Donc, imaginez si on déploie cette plateforme-là et qu'on fait comme avec SACLIC, c'est-à-dire qu'on fait pas assez de tests, qu'on n'élimine pas assez de problématiques dès le départ, on pourrait se retrouver avec des pannes informatiques qui affecteraient notre système de santé. Je pense que c'est la dernière des choses que le système de santé québécois a besoin présentement. C'est un fiasco comme on a connu avec SACLIC au niveau du ministère des Transports. Mais il y a aussi d'autres projets informatiques qui sont extrêmement alarmants, qui autant au niveau des dépassements de coûts que des potentiels problèmes que ça pourrait causer, notamment Revenu Québec. Eux autres, ils veulent mettre en place un système qui va automatiser éventuellement le traitement des déclarations d'impôts. Mais imaginez une seule seconde si ce projet-là plante pendant son déploiement, quel impact que ça pourrait avoir sur les déclarations d'impôts ou sur les gens qui vont attendre leurs prestations. Bref, la réalité, c'est qu'on dirait qu'il y a effectivement très peu d'encadrement au niveau des projets informatiques, de leur impact sur sur la population et finalement du coût pour les contribuables. Entendons-nous, ça devient de plus en plus astronomique. Puis, bon, faut toujours rappeler l'état des finances publiques au Québec qui sont toutes sauf dans le vert présentement. Donc, de se dire qu'on continue à accumuler des factures comme ça avec les projets informatiques qui fonctionnent tout croche, c'est assez déplaisant pour les contribuables, ça c'est garanti.
Tant si longtemps qu'on ne verra pas des fonctionnaires qui ont abusé du système ou qui ont vraiment mal fait leur job, qui a fait en sorte qu'il y a eu une dilapidation des fonds publics, les chaînettes aux pieds puis les menottes aux poings, je pense que le message ne se passera jamais à travers tous les employés qui peuvent profiter du système. Puis sortir de ce système-là extrêmement riche ou faire bénéficier les amis pour qu'ils puissent continuer à faire de l'argent puis recevoir des cadeaux par en arrière. J'ai peut-être une vision peut-être un peu noire de la chose, là, mais avec tous les dépassements de coûts, avec le fait que les gens semblent se foutre éperdument de l'argent du public, Nick, je me dis c'est clair et net que c'est un système qui est organisé. Puis je me pose toujours la question, est où l'UPAC? Es-tu encore dans les histoires de faux passeports vaccinaux? L'UPAC, est-ce qu'elle est très attentive avec la commission Galant? Est-ce qu'ils vont intervenir à un moment donné? Est-ce qu'on va voir des gens qui vont se faire arrêter puis finalement bien, passer devant le juge pour se faire déclarer coupable ou non? Faut que ça bouge parce que sans quoi, ça va toujours continuer, là.
Ben, je suis d'accord. Puis pour l'UPAC, par exemple, sans faire un procès contre l'UPAC, je me souviens pas du nombre de personnes qui ont été arrêtées par l'UPAC à ce jour. Il me semble que le chiffre est quand même assez proche de zéro si on fait abstraction, bien sûr, là, des quelques infirmières qui avaient tenté de contourner le système là, des passeports vaccinaux. Puis encore là, ça n'a pas été nécessairement des arrestations. Mais il en reste que l'UPAC...
Ce qu'ils ont fait vivre à Nathalie Normandeau, c'était épouvantable. Là, le boss de l'UPAC qui se négociait son contrat pour être re-signé, qui s'en va chercher l'ex-bras droit de Jean Charest pour l'accuser. Finalement, écoute, ça n'a jamais rien donné. Normando, sa réputation a été entachée. Il va toujours rester, même si elle est innocente, il va toujours rester des gens à dire « Ouais, mais là, c'est arrêté, c'est pas pour rien. » L'UPAC, c'est un fiasco, là.
Ben oui, c'est un fiasco, mais au moins, tu sais, pour leur donner un point, ça fait depuis 2023 apparemment qui talonne la SAQ par rapport au projet SACLIC. C'est juste qu'on a appris ça il n'y a pas si longtemps parce que généralement, quand ils déclenchent une enquête, ils vont pas l'annoncer officiellement pour par principe qu'ils veulent quand même qu'ils restent le plus anonyme que possible et subtil pour cumuler de l'information sans que les gens ou du moins que les personnes visées sans doute. Mais effectivement, il va falloir peut-être quelque chose de plus robuste que l'UPAC ou du moins une UPAC plus robuste elle-même pour aller au fond des choses et faire des arrestations en bonne et due forme. Alors, c'est ça, on veut pas que ça devienne un bras politique pour faire des arrestations de personnel ou de fonctionnaires de manière complètement arbitraire. Mais quand c'est rendu qu'il y a seulement des tapes sur les doigts qui se donnent, mais qu'il y a quand même des centaines de millions qui sont détournés, je veux dire, il y a quand même un gros problème et ça mérite d'être réglé le plus rapidement que possible.
All right. Écoute, j'avais plein de choses à te jaser aujourd'hui, mais je vais te parler de ton ce que tu as écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, là, dans la rubrique « Opinion, faites la différence ». Je te salue, Nicolas Gagnon, directeur Québec, Fédération canadienne des contribuables. Le titre, c'est « Legault doit faire un vrai ménage et réduire la taille de la bureaucratie ». Et moi, c'est le chapeau que j'adore. Il n'est jamais trop tard pour faire le ménage, à condition que ce soit un vrai ménage et non un simple coup de balai pour cacher la poussière sous le tapis. T'es un poète.
Eh oui, j'étais inspiré. Mais j'étais inspiré, mais pas nécessairement pour les meilleures raisons, parce qu'on s'entend qu'au final, c'est un rappel à quel point la bureaucratie sous François Legault, l'ensemble du fonctionnariat a carrément explosé, en fait, et que ça a un impact non négligeable sur les finances publiques du Québec. Je le rappelle, en 2018, quand François Legault est arrivé au gouvernement, à la solde du gouvernement, justement, il y avait 492 000 employés, qu'on parle dans la fonction publique, donc les ministères ou dans le parapublic, donc les CIUS ou les écoles. Et au final, on réalise qu'on est rendu à 608 000 employés à la sorte du gouvernement. Donc, c'est une augmentation de 116 000 nouveaux fonctionnaires.
Attends un peu. 492 000 personnes avant que François Legault prenne le poste de premier ministre du Québec, alors que pendant l'élection, il avait promis qu'il allait couper ces postes-là. Donc, 492 000. Et là, tu me dis que ça a monté jusqu'à 608 000. C'est une hausse de 24%, ça?
Oui, c'est exact. C'est une hausse de 24%, mais aussi les fameux 5 000 qu'ils voulaient couper, c'est directement dans les ministères. Donc, il faisait carrément référence à l'époque aux pousseux de crayons qui s'occupent de la paperasse dans les ministères. Donc, ça aurait été une manière d'alléger à la fois l'aspect réglementaire et aussi le nombre de fonctionnaires. Finalement, dans les ministères, il va avoir ajouté 12 000 fonctionnaires, puis dans le reste de la machine, il va avoir ajouté le 96 000 personnes de plus, 94 000 personnes de plus dans le reste de la fonction publique. Mais juste pour faire un petit parallèle rapide, c'est une augmentation de 24% en quelques années, oui, au niveau du nombre, mais dites-vous que la population québécoise, elle a augmenté d'environ 10% sur la même période. Donc, on peut dire que la fonction publique a augmenté deux fois plus rapidement en termes de croissance que la population québécoise qui est supposément desservie par celle-ci.
Ça s'explique-tu ou c'est juste quelque chose qu'on met dans la catégorie « ça fait pas de sens »
En fait, ça fait aucun sens. Parce que, d'un, il aurait dû avoir un ménage qui aurait dû être fait, en fait, directement dans les ministères pour réduire le nombre de fonctionnaires, comme c'était déjà entamé à l'époque de Philippe Couillard, et que c'était promis par François Legault. Finalement, il n'y a jamais eu de ménage qui a été fait comme tel. Là, on commence à en faire un, mais c'est un ménage de surface. C'est-à-dire qu'il y a eu un gel qui a été décrété dans les embauches de la fonction publique, du moins un gel partiel qui est en vigueur depuis le 1er novembre dernier. Mais au final, malgré qu'ils veulent couper à peu près 2000 postes, la fin de leur mandat, du moins d'ici 2026, il n'en reste pas moins qu'ils ont augmenté le nombre de fonctionnaires de 12 000 dans les ministères et plus de 90 000 dans le reste. Et quand on regarde, quand on fait un breakdown, en fait, de tous ces chiffres-là qui ont été ajoutés, donc de tous les postes qui ont été créés dans le parapublic, on se rend compte que même là, plus de la moitié de ces postes-là ne sont pas des postes de première ligne. C'est des postes essentiellement d'employés de bureau ou de soutien logistique et autres. Ça aurait pu être effectivement remplacé, ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus concise pour que ce soit des postes qui soient plus automatisés ou ce genre de choses-là. Malheureusement, il n'y a rien de ça qui a été réellement fait. Donc, au final, ça coûte beaucoup plus cher aux contribuables pour avoir beaucoup plus de fonctionnaires, pour pas nécessairement avoir beaucoup plus de services. Puis quand on parle du coût, c'est un coût quand même assez important là, pour rémunérer l'ensemble de la fonction publique au Québec. Ça coûte environ 44 milliards de dollars. Du moins, ça coûtait 44 milliards quand François Legault est arrivé au pouvoir. Présentement, ça nous coûte 64 milliards. Donc, par année, on paye 20 milliards de plus pour rémunérer la fonction publique québécoise. Puis ça, c'est dû en partie à deux phénomènes. D'un, la croissance de la fonction publique. Et le deuxième, c'est les conventions collectives qui ont été négociées en 2023 et qui amènent un poids assez important sur les finances publiques. Et ça, c'est quand même l'œuvre de Mme Sonia Lebel. C'est l'œuvre aussi de François Legault. C'est l'œuvre d'un gouvernement qui avait promis de faire le ménage, de rendre le gouvernement plus plus souple, moins lourd et moins nombreux. Puis finalement, ils ont fait complètement l'inverse à tous les niveaux. Et ben, si on a aujourd'hui un déficit de 13,7 milliards puis une décote du Québec, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps par Standard & Poor's, et qu'on s'attend à ce que la situation soit possiblement aussi pire au printemps prochain pour le prochain budget, ben c'est en très grande partie parce que la fonction publique sous François Legault a été carrément hors de contrôle.
Ouais, fait qu'on répète les chiffres, là, 492 000 fonctionnaires avant que François Legault arrive au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, on a monté ce chiffre-là à 608 000 fonctionnaires. Donc là, ça représente quoi? 116 000 nouveaux employés à la solde du gouvernement. C'est 116 000 employés à la solde du gouvernement, mais c'est aussi 116 000 fonds de pension de plus à soutenir, là.
Exact. Puis je rappelle encore une fois, quand on regarde l'ensemble de ces chiffres-là, puis on s'intéresse aux travailleurs de première ligne, parce que là-dedans, ça inclut bien sûr les professeurs puis les infirmières. Mais vous remarquerez que c'est un nombre qui est assez négligeable au niveau de l'ajout de postes qui ont été créés dans l'ensemble de la fonction publique au cours des dernières années. Alors qu'on se faisait promettre que ce soit durant la pandémie ou après, on se faisait non, on va prioriser des services de première ligne. Mais quand on regarde les chiffres, ben c'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Donc si ça avait été par exemple la moitié des chiffres, mettons qu'on avait engagé 100 000 personnes, mais que la moitié c'est des infirmières et des professeurs, on aurait. Je pense que c'est un peu plus normal d'engager du personnel de première ligne qui joue des rôles extrêmement importants au sein de la société québécoise. Je dis pas que tous les fonctionnaires qui ont été ajoutés sont nécessairement inutiles comme tels, mais il aurait fallu quand même s'intéresser au type de poste qu'on créait, puis l'impact que ça aurait sur les finances publiques. Et malheureusement, cet exercice-là n'a pas été fait par le gouvernement de François Legault, du moins. Et apparemment, il tente de le faire présentement. Puis Mme Sonia Lebel le disait, il y a pas dans sa réponse à mon texte sur Twitter ou sur X, pardon, elle disait que non, on fait déjà un ménage, puis d'ici 2030, on va sauver à peu près 3 milliards de dollars en économie grâce au ménage qu'on fait dans la fonction publique. Ouais. Mais il faut peut-être lui rappeler que juste le coût de la dette annuellement va coûter 3 milliards de plus par année d'ici cette période-là. Donc, au final, les économies qu'on fait de ce petit grattage de surface qu'on fait présentement, il va dégager des économies qui sont assez petites par rapport au coût réel de la fonction publique et par rapport à ce que ça va nous coûter à long terme.
Oui, mais c'était des promesses qui avaient été faites pour ce qui est de réduire la bureaucratie. 2012-2014, François Legault aussi, 2018, ça n'a toujours pas été fait. Puis tu aurais dû répondre à Mme Lebel, oui, mais pourquoi vous attendez l'année avant l'élection pour commencer à faire une réduction dans la fonction publique? Qu'est-ce que tu aurais expliqué? Ah, mais là, on n'avait pas le temps avant. Parce que, on va se le dire, là, je pense qu'on l'a tous constaté, puis tu l'as mentionné dans ton texte, il y a eu une dégradation du service offert à la population alors qu'il y a eu une augmentation des employés qui sont rentrés au gouvernement du Québec. Ces employés-là travaillent peut-être extrêmement fort, mais visiblement, le but ultime, c'est de donner de meilleurs services aux Québécois et ça ne se ressent pas. Est-ce que tu as l'impression que si on continue comme ça, on va encore dégrader la cote de crédit dans les prochains mois, les prochaines années? Il y aura certainement des révisions. On s'en va dans le mur, là.
Ben oui, j'espère qu'on se trompe et que finalement les choses vont se redresser d'elles-mêmes au courant des prochains mois. Mais on voit